Au complet extra est présenté par Baseball Québec, la fédération du sport officiel de l'été. Et de Lester's, maître du smoked meat et des hot dogs depuis 1931. Avec votre équipe à l'animation, Alain Huzreau et Marc Griffin.
Le baseball, c'est plus qu'un divertissement. Après des mois d'inactivité, on veut bouger sur des terrains de balle. Rendez-vous au baseballquebec.com. Débranche tout et on va jouer dehors. Ce sera ton été de baseball.
Pour un barbecue réussi, rien ne fait l'unanimité comme un bon hot dog Lester's. Des saucisses parfaitement assaisonnées et fumées à la perfection. En plus, les hot dog Lester's sont préparés au Québec par des gens d'ici. Cet été, gâtez-vous all dress avec Lester's.
Bonjour tout le monde et bienvenue à ce compte complet extra. Aujourd'hui, nous allons jaser de ce qui s'est passé avec les expos et qu'est-ce qui pourrait se passer avec les expos. Avec nous, deux invités. Avec moi et Alain, on a deux invités. On a Jean Allard qui est avec nous. Bonjour Jean.
Bonjour Marc.
Et on a Michel Frison qui est avec nous. Bonjour Michel.
Bonjour Marc, bonjour Alain.
Alors, groupe de travail, joueurs sur les buts, c'est un groupe de travail qui a été formé pour parler de l'avenir. On sait qu'avec le documentaire des expos récemment, Alain, tu as vu le documentaire qui a tué les expos. On parle beaucoup du passé, on essaie de trouver qui a blâmé. Est-ce qu'on a fait le tour, Alain, de est-ce que le documentaire fait le tour puis qu'on... On met finalement un point là, sur l'histoire des expos?
Il y a toujours des choses à raconter, Marc. Mais c'est sûr, pour quelqu'un comme toi, moi, on est, tu sais, on vivote là-dedans depuis un sacré bon moment. Est-ce qu'on a appris quelque chose? Regarde, il y a des nuances qui ont été ajoutées probablement, mais tu sais, c'est le retour de la nostalgie des expos, dans le fond. Savoir ce qu'on a appris quelque chose. Moi, dans ton côté, je suis presque sûr que pas grand-chose. Sinon que David Sampson, toujours antipathique, il... bon, à part ça, tu sais, je veux dire, est-ce que c'était nécessaire de le ramener? C'est correct, Marc. Ça nous fait revivre un peu des choses qui nous ont fait vibrer. Moi, la fin des années 70, début 80, évidemment, j'étais à la fin de l'adolescence, début, t'as tout le temps... tendance à idéaliser, mais j'ai fait beaucoup de recherches, tu sais, j'ai écrit un livre sur cette période-là, puis moi, je pense de recréer cette période-là, ça va être très, très difficile de penser qu'à un moment donné, le baseball, même avec un retour possible, qui serait plus populaire que le Canadien, mais, tu sais, j'ai été privilégié de vivre cette période-là, tu sais, à fond. Donc, mais est-ce qu'on a, moi, j'ai appris quelque chose. Les gens qui sont amateurs de baseball, probablement, de mon côté, de ton côté, des gens qui ont pataugé là-dedans ou qui ont nagé là-dedans, pas juste pataugé, mais nagé là-dedans, c'est un retour. Regarde. Puis comme tu dis, il y a toujours quelque chose, des nuances à ajouter sur ce qui s'est passé. Peut-être, tourner la page de façon définitive. Tant qu'il y aura des gens, Marc, qui auront vécu cette période-là, il y a des gens qui auront des choses à dire. Donc, moi, je pense que ça se peut qu'on voit d'autres choses. Regarde. Si ça peut faire revivre la passion des gens, ben tant mieux.
Bon, écoute, en tout cas, chose certaine, moi personnellement, j'ai trouvé ça très, très difficile de faire l'entrevue, même si même si mes propos valaient pas tant en profondeur dans le documentaire, je te dirais que j'ai fait quand même une entrevue de 2h30. J'ai trouvé ça très difficile après parce que ça te fait revivre des moments frustrants, des moments où, bon, clairement, il y avait un manque de vision. Là, je pense que c'était ce qu'on a à retenir de ça, c'est qu'il y avait un manque de vision totale. Mais, tu sais, j'aurais espéré qu'on se rappelle des belles choses, parce qu'il y a plus de belles choses qu'on se rappelle quand même des expos, là, je veux dire. Bon, en tout cas, personnellement, moi, ça me fait aimer le baseball, ça fait que le baseball, aujourd'hui, j'en ai fait une carrière, mais c'est pas juste moi, là, je veux dire, ça a touché tellement de monde, alors que parfois, j'ai l'impression que, tu sais, le documentaire faisait en sorte là, qu'on touchait bon, beaucoup de points négatifs, évidemment, parce qu'il fallait trouver des gens fautifs là-dessus. Mais ceci étant dit, faut tourner la page. C'est ça que je m'étais dit lorsque j'ai terminé l'entrevue. Il faudrait tourner la page. Et là, il y a des gens qui ont décidé non seulement de tourner la page, mais tu sais, on vit dans un monde où tout le monde nous dit arrêtez de vivre dans le passé. Faut vivre le moment présent. Et là, on est dans le moment présent et on a nos deux invités que j'ai nommés tantôt, Jean et Michel. Messieurs, vous avez décidé de partir un groupe de travail pour parler aux gens un peu, briser des mythes, essayer de faire comprendre aux gens pourquoi finalement ce serait une bonne chose d'avoir une équipe de baseball professionnelle à Montréal. Michel, je vais commencer avec toi. Le groupe s'est formé de quelle façon? On part de où? Là? On est-tu sur dans un restaurant sur une napkin, on jase, puis on prend des notes, puis finalement on part la machine?
Écoute, ça a commencé, j'ai commencé seul à faire de la recherche. J'écoute beaucoup de vidéos en ligne là, sur le baseball majeur pour essayer de comprendre le business. Et quand j'ai commencé à regarder les chiffres de Nashville, tout le monde parlait de Nashville. Ah, Nashville, c'est un slam dunk, ils vont avoir une équipe. Quand je regarde les chiffres, puis on voit la population de Nashville, de Raleigh puis de Charlotte comparée à Montréal, je veux dire, c'est du simple au double. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, wow, time out, là, il y a quelque chose en arrière de ça. J'ai commencé à creuser, j'ai appelé Jean. Jean est très bien connecté dans le baseball international. Moi, je travaille en aéronautique depuis plusieurs années là, chez Bombardier, CAE. J'ai travaillé sur le C-Series de Bombardier, les Global, tous les gros programmes. Fait que des gros projets, j'en ai déjà fait. J'ai appelé Jean, Jean a appelé ses contacts. Et à un moment donné, on était au Farm Bureau, au salon du Farm Bureau avec les gens de l'aéroport de Montréal que je connais. Et Martin Massé, le VP des communications, m'a dit « Puis Michel, ton projet de baseball, qu'est-ce qui se passe? » Ben, j'ai dit « Je suis pas mal tout seul de ma gang, là. J'aurais besoin d'une équipe. » Il dit « Écoute, on va faire un groupe de travail. » Et ça a parti là au Farm Bureau à l'entour d'un lunch en deux meetings d'aéronautique avec Martin et d'autres personnes qui étaient là présents. On s'est mis à parler de baseball tout d'un coup puis de comment qu'on pourrait faire fonctionner ça, une équipe. Et c'est là que ça a commencé. Puis depuis 13 mois maintenant, écoute, on a parlé avec des gens à travers le monde, là. Je pense qu'on a parlé de pas loin à 12 milliardaires et des groupes à travers le monde, là, du Qatar jusqu'au Québec, en Californie, aux États-Unis, New York, des banquiers, des fonds d'investissement. Et on a ramassé énormément d'informations. On a appris c'est quoi cette business-là. Je suis pas un expert, mais honnêtement, je commence à comprendre la business d'une équipe de baseball et tout ce qui tourne alentour. Et ben, c'est là qu'on est rendu. Ça fait 13 mois, puis on continue. On lâchera pas.
Jean, le 13 mois, là, Michel a quand même décrit rapidement tout ce que vous avez fait, mais est-ce que vous étiez fixé un espèce d'objectif de dire, on va essayer de ramasser un peu d'informations, puis là, on est rendu où? Est-ce qu'on est satisfait? Est-ce qu'on est encore plus convaincu avec l'information reçue qu'il y a 13 mois?
Beaucoup d'informations reçues, oui, comme tu dis, Marc, mais je pense qu'on doit encore travailler très, très fort pour se rendre à notre but. L'objectif, c'était bien sûr d'avoir les informations et les partenaires financiers assez solides pour pouvoir présenter un bid pour la prochaine expansion. Bon, là, il y a plein de rumeurs. Moi, M. Manfred qui dit plein de choses. Il y a plein de rumeurs aussi au niveau du baseball majeur, 2027, 2028. L'expansion serait 2031. Il n'y a rien encore de confirmé. Alors, on se donne pas nécessairement de date de fin pour nos espoirs. Mais je pense qu'avec les contacts qu'on a fait dans la dernière année, avec les informations qu'on a pu colliger, et puis l'enthousiasme aussi qu'on a, puis aux différentes personnes qui nous parlent, ben ça nous pousse à continuer. Mais je pense que notre but, c'est pas nécessairement, puis je veux pas acheter de la poudre aux yeux à personne, on veut pas acheter de la poudre aux yeux à personne ce matin, on veut pas créer de faux espoirs, on est, comme tu l'as mentionné, un groupe de travail, on n'est pas un comité de candidature, on n'est pas rendu là, mais je pense qu'au niveau, puis je te remercie, toi et Alain, de nous donner cette tribune-là, parce que ça permet aussi de déconstruire certains mythes. La business du baseball en 2004, quand les expos ont quitté, et la business du baseball en 2025 est totalement différente. Et puis c'est ça là, qu'on veut justement dans l'opinion publique ou dans l'acceptation sociale d'un retour, d'une concession de baseball majeur à Montréal, ce que ça peut amener à Montréal, et c'est immense. Alors, on est là-dedans.
Du point de vue du baseball majeur, puis je pense qu'on le sait depuis plusieurs années, Manfred veut internationaliser le baseball. Ça, c'est clair. On veut que le baseball soit aux Olympiques. On a vu des matchs, regarde cette année, la saison a commencé au Japon, ça a fini au Canada, je pense. Puis, il y a plusieurs chroniqueurs de renom qui voient Montréal dans une expansion possible. Je pense à Bob Nightingale, entre autres. Il n'a pas été le seul. Rigorsby aussi a mentionné Montréal. Et je pense qu'on aimerait ça parce que ça permettrait d'avoir, par exemple, une présence francophone au sein du baseball majeur. Par contre, là où le fameux financement, est-ce que vous êtes les gens à qui vous avez parlé, au niveau local, ça semble être plus difficile. Ça va prendre des capitaux qui viennent de l'extérieur.
Mais ça va prendre un groupe. Hein. Récemment, les Rays de Tampa Bay ont été vendus. Là, la transaction est en train de se faire. Et c'est des groupes. Tu sais, des Steve Cohen comme les Mets ou monsieur propriétaire des Orioles, Rubenstein. Des gens comme ça qui ont plusieurs milliards. Ça ne court pas les rues, right? Puis il faut qu'ils aiment le baseball. Je veux dire, c'est bien beau avoir 15 milliards, mais si tu n'aimes pas le baseball, tu te dis pourquoi j'achèterais ça, puis je vais toujours aller au stade à tous les semaines, puis si tu n'aimes pas le baseball, ça ne donne rien. Mais ce qu'il faut, on a parlé avec un banquier récemment à New York, là. Il nous a dit, écoutez les gars, là, c'est très simple, là. Trouvez quelqu'un à 600 millions au Québec, puis rappelez-moi. Il dit, quand vous aurez trouvé quelqu'un à 600 millions, là, on va avoir l'attention de Major League Baseball, puis on va être capable, après ça, de bâtir un groupe alentour de ça. Okay, fait que le chiffre magique, là, c'est pas 4 milliards, c'est pas 2, c'est pas 3, c'est 600 millions. À partir de là, il y a des investisseurs minoritaires qui vont lever la main et vont dire « Hey, moi aussi, je vais embarquer. » Puis, il y en a au Québec qui nous ont déjà dit « Écoute, si vous faites de quoi, rappelez-nous, parce que le sport professionnel, c'est une catégorie d'investissement qui est très payant. Les gens qui ont mis de l'argent dans le Canadien de Montréal, là, là, 10 ans quand M. Molson a acheté, je ne sais plus combien d'années, là, allez leur demander aujourd'hui qu'est-ce qu'ils pensent de cet investissement-là. Ils vont tous vous dire, demain matin, on rembarque. Parce qu'ils ont fait énormément d'argent. Puis c'est dans tout le sport professionnel. C'est une des catégories d'investissement en ce moment qui est la plus payante. Puis c'est pas moi qui le dis, là. C'est des chiffres. Je pense qu'une équipe de baseball majeur a généré dans les derniers 20 ans pas loin de 11 % de retour sur investissement, quand la bourse de New York a généré à peu près 6 puis le TSX a généré 4. Sur 20 ans. Donc, c'est une catégorie d'investissement qui prend beaucoup de valeur. C'est très recherché. Puis, on le voit aux États-Unis, là, Salt Lake City, Portland, Nashville, Orlando, tout le monde veut une équipe. Puis, il y a aussi les plateformes, la télé. Là, pourquoi ils veulent avoir des... Parce que ça génère des retours. Ça va chercher des clientèles très intéressantes pour la télé aussi. Puis, tous les abonnements, là, Amazon, Apple, pourquoi ils s'intéressent à ça? Parce que ils voient le potentiel là, de générer des retours. Donc, puis on voit le succès des Jays. Là, Sportsnet et les Jays qui ont fait, c'est magique. Là, je veux dire, il y a de l'argent à faire. C'est une bonne business. Puis c'est cet angle-là qu'il faut prendre. C'est une business. Après ça, comment on la finance? Bien, ça, c'est une autre étape.
Bon, vous avez parlé de déconstruire des mythes. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on sait que les années des expos, il y a des années difficiles. Tout le monde disait ça vaut pas cher, ça vaut pas si peu. C'est quoi déconstruire des mythes, Jean?
Ben, il y en a plusieurs. Il y a une catégorie de gens qui disent ah, jamais le baseball va revenir à Montréal. Celle qu'on entend le plus souvent, c'est la faiblesse du dollar canadien. Ben, aujourd'hui, dans la business du baseball, chaque équipe reçoit un montant X du baseball majeur en retour, que ce soit pour les droits régionaux ou même là, les droits de télé là, qui sont nationaux, et un partage de revenus de toutes les équipes de plusieurs millions de dollars en US. Bon, selon les équipes, là, on a essayé de faire un calcul qui n'est pas nécessairement là, bien défini, mais pour une équipe de mid-market comme la nôtre, comme Montréal, là, ça pourrait aller là, entre 150 et 200 millions de dollars de recevoir du baseball majeur. Le 1er janvier, tu rouvres la Switch puis tu reçois 200 millions de dollars du baseball majeur en US. Alors, c'est plus vrai que les revenus d'une équipe à Montréal seraient seulement en dollars canadiens. Et en contrepartie, ben, les salaires qu'on aurait à payer aux gens qui travaillent dans l'organisation ici seraient en canadien. Donc, ce point-là là, est vraiment à discuter. Puis comme Michel l'a dit, on n'est pas des financiers, Mais je pense que juste de dire ça, qu'on reçoit, mettons, entre 150 et 200 millions de dollars avec le partage de revenus et, bon, la fameuse taxe, là, mais avec le nouveau plafond salarial là, qui est discuté, là, ça stabiliserait également les revenus de tout le monde. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose qui est plus vrai, là, tu sais. Dans l'autre, un autre là, des mythes, si je peux dire, là, les gens disent qu'avec le prix des billets, les salaires payés aux joueurs dans le temps des expos, là, avant 2004, c'est sûr que la majorité des revenus provenaient des billets vendus. Alors qu'aujourd'hui, en moyenne, au baseball, dans les autres sports, là, il y a différents pourcentages, mais au baseball, ça représente, les salaires payés en US représentent seulement 31% des revenus totaux des équipes. Alors, c'est plus vrai que le walk-in, comme on disait là, dans le temps, où la vente de billets, c'est la source majeure de revenus. On parle de 50% des revenus de télé, puis on parle de 20%, un peu plus de 20% là, des commandites et des revenus locaux en tant que tels. Alors, c'est 70% qui vient ailleurs de la vente de billets. T'sais? Alors, comme on le disait aussi avec Michel hors des ondes, si un mardi soir, on a 15 000 personnes, c'est sûr qu'avec un nouveau stade, par exemple, à long terme de 35 000 personnes, puis c'est sûr qu'un nouveau stade, il y a l'attrait, on est plein pour un an ou deux. Mais si un mardi soir, il y a 15 000 personnes, faut pas s'alarmer de ça. C'est sûr que les gens ont en tête hein, les dernières années où il y avait 5 000 personnes dans le stade. Mais ces 10 dernières années-là qui ont fait très mal aux expos, je pense qu'on est au-delà de ça. On est ailleurs là, dans le baseball majeur. Bon, il y a eu des statistiques qui ont été sorties. Là. Puis Alain, peut-être que tu peux nous aider là-dessus. Les gens disaient que le baseball est un sport pour les personnes âgées. La moyenne des fans de baseball est passée de 51 ans à 46 ans dans les dernières années. Les revenus de billets, la présence de la nouvelle génération là, des 20-30 ans augmente en flèche dans les stades. Je ne sais pas si Alain, tu as des chiffres exactement à nous donner. Là. Mais alors ça, c'est pas vrai non plus que la nouvelle génération, puis Marc, tu le sais très bien, Baseball Québec fait un excellent travail sur la promotion du baseball au Québec. La nouvelle génération de joueurs augmente en flèche à toutes les années. Les parents de ces jeunes-là sont les derniers à avoir vu les expos il y a 20 ans. Maintenant, amène les jeunes garçons et les jeunes filles également à jouer au baseball, à aimer le baseball, puis on s'en cache pas. Ce qui vient d'arriver aux Blue Jays, là, tous les gens qui ont regardé la série mondiale et qui ont encouragé les Blue Jays, comme je l'avais mentionné là, sur un petit post, là, on peut encourager les Blue Jays avec une casquette des expos, mais tout ça, tout ce qui s'est passé là, imaginez si ça peut revenir à Montréal, comment Montréal va être fébrile.
Oui, écoute, dans les chiffres que tu as mentionnés, je ne les ai pas comme tels. Le baseball majeur a fait des efforts pour dynamiser le baseball. Je pense que la principale mesure, c'était le cadran. On a éliminé beaucoup de temps mort avec ça. Quant au reste, les revenus, regarde, on a eu le tableau du pourcentage de revenus qui est alloué au salaire. On l'a vu pendant les séries éliminatoires, puis les équipes qui ont le moins de revenus, on est autour de 300 millions de dollars là, au total. Puis tu regardes les équipes qui sont dans le fond, c'est des équipes, je ne dis pas qu'on fait exprès, je te dis juste qu'on ne fait pas plus d'efforts qu'il faut parce qu'on fait beaucoup d'argent. Je pense aux Rays. Bon, dans le cas, les A's, c'est un cas assez particulier. Il n'y a pas beaucoup de monde qui veulent s'associer aux White Sox de Chicago de ce temps-là. Donc, ce sont des équipes qui croule au bas fond, mais des White Sox, ça ne prendrait pas grand-chose là, pour relever ces revenus-là à 400 millions là, dans un gros marché. Donc, effectivement, puis au niveau familial, là où le baseball majeur a de l'ouvrage à faire, par contre, puis on en est très conscient dans le baseball majeur, c'est que, écoute, si tu veux sortir de ta famille, là, faut que tu puis même dans votre document, vous le dites, oui, c'est moins cher que d'autres sports, mais ça demeure quand même dans les trois chiffres. Tu sais, dans les deux chiffres, c'est pas donné d'emmener sa famille dans un match de baseball. Là, ça l'était dans les années 80. Le commissaire en est conscient. Il va falloir ramener les familles dans les stades de baseball.
T'as raison, Alain. Un des chiffres qu'on a, qu'on a eu de 2022, encore une fois, c'est il y a 3 ans, on n'est peut-être pas actualisé, là, mais on parle d'un match de baseball avec 4 billets et tout ce que ça comporte, là, hot dog et breuvage et stationnement. On parle de 205 $, alors que pour la LNH, c'est 580 $. C'est 3 fois moins cher. Alors,
mais quand même, c'est pas donné quand même pour une famille. Là.
C'est vrai.
Non, c'est sûr. Mais regarde, je vais au coin de la rue ici manger deux poutines, deux hot dogs, puis je sors de là, ça me coûte 50. Je pense qu'il faut, à un moment donné, faut comprendre aussi, puis je suis d'accord, Alain, c'est beaucoup d'argent, 200 $.
Ben.
Mais tu sais, aller au Centre Bell, là, c'est, moi, je n'y vais plus, là, parce que j'ai un bon salaire, mais j'ai pas les moyens. C'est des soirées qui coûtent 300-400.
Mm-hmm.
Je veux dire.
Non, puis est-ce que c'est pas un peu. Tu sais, bon, je sais que le billet de saison reste quand même son importance, mais je regarde ce que Michel Laplante a fait avec les Capitales de Québec. Là, évidemment, ça à différentes échelles, je comprends, là. Mais est-ce qu'on ne viserait pas justement de voir chaque famille venir une fois ou deux dans l'été? Si une bonne partie de la population se dit ça, on n'aurait jamais de problème de. J'avais de problème d'assistance, voilà. Évidemment, à ce niveau-là.
Moi, personnellement, je chargerais 5 $ par enfant toute la saison. Si tu viens seul, là, tu prends l'autobus un mercredi soir, tu vas aller au baseball, tu prends l'autobus, tu as 14 ans, tu arrives avec ta sandwich, 5 $, tu t'assois dans certaines sections, puis c'est là qu'on va bâtir le marché. Puis je pense que le commissaire, il y a même des gens qui disent que ça devrait être gratuit pour les enfants en bas de 5 ans ou en bas de 17 ans. Puis je pense que c'est faut développer la clientèle. Moi, je me souviens, j'ai des amis qui prenaient l'autobus d'Antic, là, ils allaient au stade, ils allaient seuls, ils payaient 1 $. Puis aujourd'hui, ben, c'est des fans de baseball.
Et pour attirer les jeunes, là, c'est pas compliqué. Puis, j'en ai déjà parlé à Marc. Faut que la fin de semaine, le samedi, que le match commence plus tôt. Pas compliqué. Là, on a perdu une génération de jeunes qui n'ont jamais vu la fin d'un match de série mondiale. Là, ça fait quoi? Depuis les années 90, ça commence à 20 h, là. Puis on le sait, le cadran fait en sorte que les matchs ont raccourci, mais je peux te dire, des matchs de série mondiale où on revenait à l'hôtel avant minuit, là, j'en ai pas fait beaucoup, moi.
Juste rajouter aussi, au niveau des chiffres, au niveau des familles, Marc, on a fait un petit sondage sur Facebook, les gens qui l'ont vu passer, là, on a eu plus de 3 000 répondants à notre sondage, c'est un sondage fait maison, là, c'est pas d'une maison réputée de sondage, là, c'est la maison Jean et Michel, là. Mais 88% des 3 000 répondants étaient positifs au retour du baseball à Montréal, même au Stade olympique. 75% sont ouverts à un retour au Stade olympique, dont 19% pour quelques années. Le temps de c'est la fameuse question de l'œuf et la poule. Où est-ce qu'on va jouer? Bien, avec le milliard que le gouvernement a décidé de mettre dans la rénovation du Stade olympique, avec nos impôts, est-ce qu'on peut justement profiter de ce nouveau stade 2.0, je vais dire, rénové pour ramener le baseball et justement, après ça, construire le stade. La fameuse là, question de l'œuf ou la poule. Est-ce qu'on construit un stade pour avoir une équipe ou on a une équipe et on construit un stade? Bien, c'est, poser la question, c'est y répondre. T'sais? Et puis, pour répondre un petit peu à Alain, là, au niveau des billets, 24% des gens sondés seraient ouverts à des mini-billets de saison de 10 matchs. 24% de 10 à 20 matchs, 9% pour un billet de saison complet et 20% viendrait à 10 fois et plus là, par année et 10% viendrait à 5 matchs par année. Je pense que aussi un point que vous avez touché au niveau de l'internationalisation du baseball, ce qui est intéressant, Montréal, on serait la seule opportunité pour le baseball majeur à toucher à la francophonie. On a un chiffre au niveau de la francophonie. 2030, il y aura 500 millions de francophones à travers le monde. Avec les nouvelles plateformes de streaming, Internet, je ne dis pas qu'on va rejoindre les 500 millions, mais une infime partie de ça, abonnés au streaming de, par exemple, je vais lancer le expo.tv, on parle de, par exemple, 250 000 sur 500 millions, qui est 0.05%, là. Mais ça va ramener 40 millions à 1 $ par match, à 162 $ pour l'inscription, 1 $ par match, 250 000 inscrits, c'est 40 millions de droits de diffusion dans les poches de la nouvelle équipe à Montréal.
Ouais, c'est sûr que tout ça fait drôlement réfléchir. On va s'arrêter un instant, messieurs. On va se faire une petite pause parce que nous autres ici, il faut payer ça, ce balado-là. Puis on vous revient dans quelques instants.
Le baseball, c'est plus qu'un divertissement. Après des mois d'inactivité, on veut bouger sur des terrains de balle. Rendez-vous au baseballquebec.com. Débranche tout et on va jouer dehors. Ce sera ton été de baseball.
Pour un barbecue réussi, rien ne fait l'unanimité comme un bon hot dog Lester's. Des saucisses parfaitement assaisonnées et fumées à la perfection. En plus, les hot dog Lester's sont préparés au Québec par des gens d'ici. Cet été, gâtez-vous all dress avec Lester's.
Messieurs, ce que les Blue Jays ont fait au cours des dernières semaines, bon, en se rendant en série mondiale, la popularité du baseball, on a l'impression qu'on voyait des signes de dollars partout à Toronto. C'était incroyable. D'ailleurs, Toronto, c'est un gros marché du baseball majeur. C'est la cinquième plus haute masse salariale. On a généré les revenus. Quand je pense que c'est nous autres qui avons payé cette franchise-là, faut-il rappeler l'histoire que... C'est une manière incroyable où, rappelez-vous, lorsque Rogers voulait acheter Vidéotron pour quoi 4 milliards, close, si l'équipe n'est pas vendue à Rogers, il y a une espèce de pénalité de 200 quelques millions de dollars qu'il a fallu finalement payer parce que là, le gouvernement du Québec, Caisse de dépôt, tout le monde est embarqué là-dedans. Puis là, ben finalement, Ted Rogers prend ça, puis ça a 200 quelques millions là, puis achète les Blue Jays. On connaît l'histoire, c'est un peu frustrant. Mais Toronto est devenu donc un gros marché, même si c'est pas aux États-Unis. Montréal se situerait où? Tu as parlé tantôt, Jean, de mid-market. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est réaliste de se positionner ainsi? Est-ce qu'on a... Tu sais, les gens... Je trouve qu'au Québec, on pense petit, on reste petit. Est-ce que maintenant, dans les chiffres que vous avez mentionnés, est-ce que Montréal pourrait bien vivre en étant une équipe qui patauge autour là, des équipes, des 10 équipes peut-être là, qui se retrouvent là, entre 10 et 20 parmi les franchises en termes de revenus, là, je parle?
Ben écoute, je pense qu'il y a un chiffre qui a été amené pendant la saison. Les gens... De tous les billets vendus des Blue Jays, il y a 15% qui viennent du Québec. Est-ce que ce chiffre-là est réaliste? C'est un chiffre qui a été juste lancé comme ça. Alors, les gens qui partent de Montréal et qui vont à Toronto pour voir un match ou la plupart du temps une fin de semaine, c'est beaucoup de dollars investis. Alors, je pense que puis de voir ce qui a été fait par les Blue Jays et leur parcours, ça serait tellement gratifiant de revoir ça à Montréal, puis on embarquerait. On la connaît, la foule à Montréal, puis pas seulement à Montréal, la foule au Québec, parce que la nouvelle équipe de Montréal serait également une équipe québécoise. On le fait pour le Québec par des Québécois. Un des points que vous avez touché au niveau des gens qui disent « Ah, il n'y a pas assez d'argent à Montréal pour faire une équipe compétitive. » Mais je rappelle que le meilleur exemple, c'est 2025. Cette année, 4 équipes, Détroit, Cincinnati, Cleveland et Milwaukee, font partie du dernier tiers au niveau de la masse salariale des équipes. Alors, c'est toujours possible avec, puis là on parle baseball, on parle strictement baseball. Mon opinion à moi, le changement là, de cap au niveau de Cincinnati, c'est Terry Francona, mais bon, pas tout le monde peut avoir sa vision ou son opinion là-dessus, mais il a gagné partout où il est passé. Ben, ce qu'il a fait avec Cincinnati, avec une masse salariale, comme je le répète, dans le dernier tiers, c'est incroyable. On pense que, et on s'est fait dire par un exécutif du baseball majeur, qu'avec une masse salariale d'environ 150 millions, qui est dans le milieu, là, dans la médiane, si je peux dire, là, ou la moyenne ou la médiane des équipes, là, on pourrait avoir une équipe qui aspirerait aux grands honneurs.
Michel?
Ben écoute, je pense que c'est vraiment un mythe de dire que Montréal, c'est un petit marché, là. Je pense qu'on en a parlé tantôt, mais quand j'ai regardé les championnats qui se sont gagnés dans les derniers 20 ans, les grandes équipes n'ont pas tout le temps gagné. Bon, les chiffres là, les large markets, là, les Yankees, les Red Sox, Dodgers, Astros, Phillies, 14 championnats, OK, sur dernier 25 ans. Mid-market, où Montréal se situerait, là, on serait dans le mid-market, il y a eu 7 championnats, là, 7 séries mondiales. Puis les small markets, les Royals et les Marlins, n'ont gagné 2. C'est sûr que statistiquement, quand tu mets plus d'argent, à un moment donné, tu as plus de chances. Mais l'équipe qui dépensait le plus dans les derniers 25 ans a gagné seulement 4 fois là, les séries mondiales. Là. OK? Donc, c'est pas nécessairement juste l'argent. Les Yankees, cette année, sont rentrés dans le wild card et les Dodgers. Donc, c'est pas vrai qu'on est un petit marché. Puis ça, je pense, c'est une fausse croyance qu'il faut absolument démolir, qu'il faut détruire, enlever de notre conscience collective. Comme tu as dit tantôt, pensons petit, restons petit. Là. Puis là, je pense qu'on le voit au point de vue macroéconomique en Amérique du Nord. Il faut arrêter de penser petit. On a un marché, on a des gens capables. Jean l'a dit, là, les exécutifs de baseball ici qui ont été formés au Québec, là, des Antopoulos et les autres, là, on pourrait avoir une masse critique de gens et avoir une équipe mid-market qui serait très rentable.
Marc, t'es le premier à pouvoir peut-être le constater ou vraiment là, le confirmer. Depuis 50 ans, hein, depuis les expos, depuis 69, maintenant, avec toutes les connaissances que les Québécois ont acquis dans le baseball, le Québec sait faire. On a plusieurs Québécois qui sont dans les sphères des équipes du baseball majeur. Et puis, sans faire de maraudage, là, mais pour avoir eu une discussion avec certains d'entre eux, les gens reviendraient à Montréal en courant.
Écoute, si tu veux aller plus loin, t'es pas obligé de regarder juste le baseball. Puis je donne juste l'exemple de Julien Brisebois qui s'est fait les dents, lui, avec, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est avec les Indiens de Cleveland qui a commencé sa carrière comme au deuxième étage. Tu sais, fait que, regarde, les Québécois là, qui gravitent dans les hautes sphères des équipes professionnelles en Amérique du Nord, il y en a. Tu peux aller fouiller à Québec si tu veux. Tu sais, c'est un exemple d'organisation pour. Regarde, c'est pas le savoir-faire qui manque. Moi, je suis convaincu de ça. Puis, on parlait de la Fédération québécoise. Marc fait partie de ce groupe-là qui a fait un travail absolument admirable au cours des 20 dernières années depuis le départ des expos pour revitaliser le baseball avec un succès peut-être même au-delà de leurs propres attentes.
Ben oui. Puis, tu sais, juste quand je regarde l'écran ici, j'en vois deux ici, gens qui connaissent le baseball. Là. Je veux dire, vous n'avez rien envié à n'importe qui. Moi, j'écoute des matchs d'autres équipes, là, puis j'écoute les commentaires. Je vous écoute aussi sur RDS. Je veux dire, vous êtes deux personnes qui pourraient travailler dans une équipe de baseball majeure puis apporter de la valeur. Là. Je veux dire, j'ai parlé à Marc depuis le début. Marc nous a aidé au début avec le projet. On a discuté de certaines choses. Et je pense qu'il y a de l'expertise. Puis Montréal, ouais. Puis il y a un autre mythe aussi, c'est que le baseball, oui, c'est peut-être un investissement de 4 milliards, mais tu sais, des transactions là, dans le monde des affaires hein, au Canada, en Amérique du Nord, de 4 milliards. Maintenant, j'ai parlé avec un investisseur, il me dit, Michel, tu sais, c'est pas une grosse, c'est gros, mais c'est pas la fin du monde. C'est pas comme 50 milliards. Là. On n'est pas en train de... Oui, c'est beaucoup d'argent, mais ça se finance. Ça se trouve de l'argent. Et quand tu as un bon projet avec des gens de talent, ça fonctionne. Moi, j'ai travaillé sur C-Series de Bombardier. Là. Bon, on se battait contre Boeing là, puis Airbus. Puis quand j'appelais des fournisseurs, puis ils me disaient, « Ouais, Michel, vous allez vraiment concurrencer Boeing puis Airbus? » Je dis, « Ben oui, venez-vous-en. Le lundi, on commence. On a besoin de fournisseurs. Venez-vous-en. » OK, on arrive. Puis aujourd'hui, il y a des avions tous les jours qui sortent de Mirabel, là, qui sont livrés partout en Amérique. Mais ça n'a pas été facile. Il n'y a rien de facile. Mais si on fait rien, puis on fait juste bitcher ses réseaux sociaux, écouter des reportages sur Netflix, puis dire « Ah ouais, mais là, on n'arrête plus, on aurait dû, on peut pas, on est pauvres. » Ben, tu sais, à un moment donné, faut sortir de ça, là, collectivement.
Moi, en tout cas, je me demande une chose. Je ne sais pas si on aura la réponse un jour, mais je me demande si Charles Bronfman n'a pas regretté de vendre son équipe à l'époque. Je sais que Charles a vu la flambée des salaires arriver, mais est-ce qu'il avait anticipé que les revenus allaient exploser aussi. Il a acheté les expos pour 10 millions en 69. Ça vaudrait combien aujourd'hui? 2,5 milliards. Là, je veux dire, c'est incroyable comme investissement. Là.
Ça a quintuplé. Là. Je veux dire, ça a passé de 256 millions à 2,6 milliards et ça continue, là, cette tendance-là, parce que c'est un monopole. Puis c'est drôle que tu parles de ça parce qu'on était là, moi puis Jean, à la première du film là, qui a tué les expos. Là, et j'ai parlé avec M. Rotenberg. J'ai eu une discussion avec avant le film. Puis il m'a fait une confidence, il m'a dit, écoute, il dit, moi, à un moment donné, je suis arrivé d'un meeting, là, et j'ai sorti un article de Forbes qui faisait une prédiction sur la croissance des valeurs des propriétés sportives, comment que c'était pour augmenter significativement. Oui, les salaires et les dépenses vont monter, mais la croissance est incroyable. Tous les actionnaires, sauf lui, ont regardé ça et ont tous dit, non, ça ne nous intéresse pas, merci, bonsoir. Fait que M. Rotenberg le savait, il l'a lu, il l'a présenté aux actionnaires. Malheureusement, ils ont pas été patients parce qu'aujourd'hui, ça vaudrait 2,2 milliards. Les Nordiques vaudraient probablement 1,2. Collectivement, au Québec, là, on a perdu 3 milliards probablement de revenus de taxation de salaire, de revenus de taxes d'amusement, de création de valeur économique. On a perdu 3 milliards. Là. Je veux dire, c'est pas rien. Là. On a perdu les Nordiques pour 75 millions et les Expos pour 120. Là.
Alain m'a déjà rappelé, Alain, qu'en 1998, si quelqu'un a 300 millions, c'est beaucoup d'argent, là, mais si quelqu'un a 300 millions en 98, tu peux acheter les Expos puis le Canadien.
Ben oui.
Puis aujourd'hui, ça vaudrait combien, là? Alors, ce que je veux dire, c'est que on parlait de manque de vision. Jean, tu veux dire, tu veux ajouter quelque chose là-dessus?
Ben oui, mais tu sais, là, on parle d'une situation il y a 20 ans. Les multimillionnaires d'il y a 20 ans sont rendus milliardaires aujourd'hui. Là, on ne se le cache pas. Là. Il y en a beaucoup de milliardaires au Québec. Mais il faut avoir une volonté, un, politique, et deux, de ces milliardaires-là, de réinvestir dans la société. C'est un investissement aussi sociétal. Des milliards de dollars, c'est de l'argent. Mais c'est aussi une façon de, au niveau de la valorisation des équipes, qui va être payant à long terme. C'est pas, j'en conviens, c'est pas de la brique et du mortier, c'est pas de l'immobilier, mais c'est dans la valorisation des équipes, le sport professionnel, une concession de sport professionnel, c'est l'investissement le plus payant aujourd'hui. Et pour revenir un petit peu à ce que vous avez dit d'entrée de jeu, là, au niveau du documentaire Netflix, je pense que tout le monde peut avoir son côté, sa version en tant que telle avec les informations qu'ils ont eues, ce qu'ils ont vécu. Puis, mais tout ça reste que, puis je l'ai mentionné, là, après le visionnement là, au cinéma du musée, ils ont donné le micro au public et c'est ce que j'ai mentionné. J'ai dit, est-ce qu'on va rester encore dans la nostalgie pendant 20 ans? C'est ça qu'on fait, là. On rebrasse le passé, on est dans la nostalgie. Moi aussi, j'ai versé quelques larmes quand j'ai vu Vlad, puis quand j'ai vu les... Bon, ben Marc, tu m'as fait pleurer aussi, mais tu sais, mais ce que j'ai posé comme question aux gens dans la salle puis au panel qui était en avant, c'est, OK, qui a tué les Expos? On a la version, mais c'est quoi la suite? What's next? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on reste dans le passé, puis on fait juste ressasser les souvenirs, ou on va de l'avant et on bâtit un projet rassembleur pour les Québécois, par les Québécois?
Et puis un projet qui va... Toutes les communautés ethniques au Québec, là, Montréal a changé, puis continue de changer. Ces gens-là, il faut les intégrer. Il n'y a rien comme le sport. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film de Nelson Mandela. Nelson Mandela, quand il est sorti de prison, est devenu président. Il s'est mis à regarder une équipe de rugby qui s'appelait les Springboks. Il a dit ça va être notre équipe. Puis on va prendre pour les Springboks, puis on va en faire notre équipe nationale. C'était toutes des Blancs. Puis ça a été un symbole incroyable parce qu'ils ont gagné le championnat. Puis tout le monde en Afrique du Sud s'est mis à suivre les Springboks. Puis c'est dans le film de Nelson Mandela, c'est bien expliqué. Fait que le sport, là, c'est pas juste de l'argent. Non. C'est un élément sociétal qui regroupe les gens, qui rapproche les gens. Au lieu de voir les différences, les religions, ça rapproche les gens. Puis le ciment au Québec...
On l'a vu avec les Blue Jays. Hein?
Mm-hmm. On l'a vu avec les Blue Jays. Puis, tu sais, il y a eu 800 000 Québécois là, qui ont regardé TVA Sport, puis Rogers, Fox. Je veux dire, ça peut devenir un élément important d'une société. Fait que, c'est bien beau de parler de l'hôpital, puis tout ça, puis de dire, ah oui, mais l'hôpital, OK, j'aime bien ça, l'hôpital, là, mais le budget de l'hôpital en 2004, c'était 20 milliards, là, c'est rendu 65, l'hôpital, elle va pas mieux, puis à tous les semaines, là, ça va de moins en moins bien, mais c'est une business qui a un impact social important. Il y a un paquet de monde qui vous regarde, Alain, puis Marc, qui sont à la maison, perte de mobilité, qui ont rien d'autre que le baseball. Là, moi, j'ai un ami, à tous les jours, là, il regarde le sport parce qu'il peut pas sortir, il est à moitié aveugle. Puis, il dit, moi, le sport, là, c'est ça qui me garde en vie. Là. Fait que ça a un élément sociétal important. Là. Donc, faut pas.
Moi, je suis tout à fait d'accord. Je sais qu'on parle toujours de finances, puis que ça va coûter cher, puis ça va coûter combien, puis c'est les salaires. Mais c'est vrai qu'il faut parfois, tu sais, montrer à quel point c'est rassembleur. Tu sais, on a parlé des Blue Jays, mais tu sais, je veux dire, on n'a pas parlé ben de politique là, au cours des deux dernières semaines. Tout le monde était autour de sa télévision ou peu importe pour regarder ce qui se passait. C'est l'exemple parfait d'avoir à quel point ça peut amener beaucoup d'énergie aussi à une société. Par contre, là, il y a une convention collective qui se termine en 2026. J'imagine que ça peut être un point très important parce que la prochaine convention collective du baseball majeur, des joueurs et du baseball, pourrait influencer effectivement s'il y aura expansion ou non. Parce que là, on va rentrer dans les fameuses dates que tu as mentionnées tantôt, Jean. Alain, quelle importance tu mets à cette convention collective-là là, qui s'en vient?
Ouais. Écoute, c'est clair que les propriétaires sont en train de préparer le terrain pour 2027. Il y a eu trop de commentaires, Marc. Tu les as lus aussi et tu les as entendus. Ça va être un tournant important, moi, j'ai l'impression, dans ce qui va suivre. Présentement, toutes les équipes font déjà beaucoup d'argent. Il y a des équipes, disons-le, qui pourraient dépenser pas mal plus dans leur masse salariale. Ça, c'est clair. Maintenant, ce que ça va prendre, inévitablement, ça va être un plancher. Il y a des équipes là, qui vont être dans l'obligation là, de dépenser pour avoir des équipes compétitives. Moi, j'irais jusqu'à, ça fait longtemps que je le prône, moi, j'irais plus loin que ça. Un partage des revenus supplémentaires, absolument. Obligation de dépenser. Puis l'autre chose aussi, le système de repêchage, présentement, récompense les pas bons. Fini dernier, ben on te récompense avec le premier choix. Moi, ça fait longtemps que je prône le fait qu'un repêchage, ça ne devrait pas être en fonction de ton dossier de l'année précédente. Ça devrait être au hasard. Une fois sur 30, tu as le premier choix. Puis, regarde, les choix compensatoires s'ajoutent. Si tu perds un joueur autonome, je n'ai pas de problème. Mais de récompenser la médiocrité, surtout sur le long terme, je sais qu'au baseball, maintenant, tu finis dernier deux, trois années. Regarde, comme je sais qu'il y a des limites là, qu'on a au baseball. Mais quand même, moi, en tout cas, ce serait un frein à la médiocrité en ce qui me concerne. Parce qu'il y a des équipes là, qui ont exagéré un peu, je pense à Miami au cours des années. San Diego l'a fait avant le dernier propriétaire. Même qu'on se vantait à un moment donné qu'on n'aurait personne dans les estrades, qu'on ferait de l'argent quand même. Pittsburgh en est un autre exemple. Donc, ouais. Moi, j'irais jusque-là. Mais c'est sûr que moi, je pense que 2027 va être un tournant. Puis, ça pourrait faire mal. Ça pourrait faire mal aux amateurs. Puis, c'est malheureux, mais je pense qu'il faut s'y attendre.
Jean et Michel? Vas-y, Jean.
Je pense que, puis c'est mon humble opinion, puis c'est ce qu'on entend également, c'est ce qui s'est passé dans les autres sports professionnels. Alain, tu mentionnes un plancher salarial, ça va venir aussi avec un plafond salarial qui va stabiliser les dépenses de toutes les équipes, qui va les ramener sur un certain pied d'égalité là-dessus, ce qui va amener plusieurs équipes à pouvoir être compétitives. Bon, avec le remaniement des divisions, on parle aussi de 32 équipes avec les deux équipes là, de l'expansion, une dans l'Est, une dans l'Ouest. Ben, les 32 équipes pourront peut-être avoir 4 divisions de 8 équipes. Il y aura un remaniement justement des équipes. Est-ce qu'on peut passer à 16 équipes qui vont passer dans les séries éliminatoires? Mais je reviens au plafond salarial. La stabilité des revenus va faire que toutes les concessions du baseball majeur, la valeur de ces concessions-là va augmenter en flèche dans les 5 et 10 prochaines années. C'est ce qui s'est passé dans les autres sports.
Ouais,
les Lakers qui viennent d'être vendus 10 milliards, les Celtics qui viennent d'être vendus 6 milliards. Ouais. Et toute la valeur des équipes dans les autres sports, là, c'est ça que ça a fait. Alors,
mais Alain, Jean, tu sais que la bébite du baseball est différente. Et là, de dire, ben oui, ça va prendre un plafond puis ça va tout régler, je suis d'accord avec toi. Mais là, il faut que tu l'introduis, ce plafond-là. Puis moi, tu sais, il y a une influence dans le baseball majeur. Fait qu'il y en a... moi, là, personnellement, je le vois pas, le plafond. J'aimerais ça, là. Mais je vois pas comment on va régler les 25 dernières années de la relation entre l'association des joueurs et les propriétaires. je vois pas comment on va pouvoir régler un plafond. Moi, je pense que, je le sais, on l'entend souvent, tu sais, les commentaires des gens d'ailleurs du Québec, c'est dire, s'ils pouvaient mettre un plafond, là, au moins, on sait que, bon, ça explosera pas en termes de, bon, de salaire. Mais la réalité, c'est que j'ai l'impression qu'on va pouvoir négocier, comme Alain a dit tantôt, une taxe de luxe encore plus importante dépensant, lorsqu'on va dépasser un certain montant, puis qu'on va permettre un plancher. Mais personnellement, en cette fin 2025, moi, je ne crois pas, je le souhaiterais, mais je ne crois pas qu'il va y avoir un plafond compte tenu de, des relations du passé. Je sais pas, Michel ou Alain, si vous êtes d'accord avec moi. Là.
Écoute, Marc, juste hier soir, je me préparais pour notre entrevue. J'ai écouté une entrevue avec un des top exécutifs de Major League Baseball Player Association qui négocie avec les propriétaires. Puis le gars est très smooth. Il dit, regarde, il dit, le plafond salarial, là, c'est, le problème, c'est le plancher. Tu as des équipes qui ne dépensent pas. Ils reçoivent du revenue sharing. Nous, maintenant, on la comprend, la formule de revenue share. Là. Je veux dire, quand tu reçois, je ne sais pas, moi, 120 millions, puis tu dépenses 67, puis tu te mets 67 dans les poches pour t'acheter un yacht à Miami. Je veux dire, là, on a un problème. Là, t'sais? Puis c'est ça le c'est un des gros problèmes. Parce que tu as bien beau me dire, OK, on va mettre un cap, mais le cap, ça vient avec des problèmes aussi. Là, à un moment donné, il te manque un joueur parce que là, tu as un blessé, là, tu défonces, tu peux pas défoncer le cap. C'est pas la... En tout cas, moi, j'étais convaincu avant, mais là, je le suis un petit peu moins. Après avoir écouté ce gars-là, j'ai dit, ouais, peut-être, il y a des points qu'il apporte qui sont positifs par rapport à... Comme tu dis, le revenue sharing, c'est une bonne formule qui fonctionne. Hein. Tout le monde fait de l'argent. Il y a ouais. Personne qui se ramasse à emprunter de l'argent pour payer les factures à la fin du mois. Puis ça fonctionne. Après ça, comment tu l'exécutes? Parce que l'argent que tu vas chercher, que tu limites en haut, tu l'envoies en bas, mais en bas, il faut qu'il y ait dépense.
Ouais.
Tu ne créeras pas de la nouvelle argent parce que tu mets un cap salarial. T'sais, au bout de la ligne, c'est juste un transfert d'argent, appelle-le comme tu veux. C'est de l'argent qui part du haut qui s'en va en bas.
Ce que tu as besoin, dans le fond, c'est le plancher, puis peut-être aussi, il faudrait que je regarde le chiffre exact, le pourcentage de revenus qui s'en va aux joueurs. Ça te prend un minimum de garantie, tu sais, de pourcentage. Est-ce que des joueurs seraient prêts à l'accepter, seraient prêts à se pencher là-dessus? Il y a tellement de choses sur la table présentement. Moi, j'ai l'impression que c'est là où les joueurs pourraient regarder d'un peu plus près. Tu sais, je lance un chiffre. Admettons, là, on a 45% des revenus qui s'en vont dans les salaires des joueurs. Puis là, tu arrives à la convention collective. On a besoin d'un plafond, d'un plancher. On vous garantit que le pourcentage de revenus qui s'en va sur les salaires va passer de 45 à 55. Regarde, je pense que c'est quelque chose qui peut être sur la table qui pourrait être intéressant, mais c'est sûr que ça change la structure salariale dans le sens où des gars 70 millions par année, tu en auras peut-être moins, mais les plus bas salariés vont gagner peut-être davantage.
Ouais.
Sans vouloir jeter de pavé dans la mort, est-ce qu'un lock-out en 2027 pourrait permettre aux deux parties de mettre un petit peu d'eau dans leur vin et de vouloir négocier de bonne foi pour le bien de la game en tant que telle?
Le bien.
Ben écoute, moi personnellement, je ne crois pas à ça. Le baseball a le vent dans les voiles actuellement. Ouais. Et 94, là, Internet, là, ça n'existait pas bien les choix. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est là, il va y avoir il y a trop de choix, selon moi, pour la population d'aller ailleurs. Tu vas perdre beaucoup trop. Ça, c'est mon opinion qui est personnelle là-dessus.
Marc a raison là-dessus. Puis je veux juste rajouter quelque chose, Marc. L'offre de divertissement est pas mal plus diversifiée l'été que c'était avant. Auparavant, il n'y a pas de football, pas de basket, pas de hockey. Bon, on est correct. Mais là, regarde, c'est correct. On va peut-être regarder plus de volleyball, peut-être plus de sport là, qu'on ne voyait pas il y a quelques années qui se disputent l'été. Regarde, il faut être très, très prudent.
Juste TikTok, là, combien de personnes qui écoutent un match de baseball qui regardent le petit singe en Afrique qui saute d'un arbre à l'autre et qui ne regarde pas la game? Là? Je veux dire, le super fan, tu sais, le monsieur, le super fan des. Je ne sais pas si vous voyez le super fan des Marlins là, qui était assis toujours en bas, qui ont chanté orange des Marlins. Là. Je l'ai rencontré à un moment donné, ce gars-là, puis. T'sais, il regarde même pas le match, là. Il paye des billets à 10 000 par mois, 10 000 par match, puis il s'assoit là, puis il regarde son téléphone cellulaire. Puis les jeunes ne consomment plus la télé comme nous, on la consommait. Hein. Moi, j'ai parlé avec un père de famille, il m'a dit, mon garçon, il suit la NFL, c'est un fan des Seahawks de Seattle, il écoute jamais un match, il suit les joueurs, il suit de tout ce qui est sur les réseaux sociaux, les résumés des matchs, les meilleurs catchs, les meilleurs jeux, il écoute jamais un match. Donc, la game a changé. Major League Baseball, Alain, t'as dit, c'est un bon point, il faut qu'il fasse attention. Parce qu'en 2028, tous les droits de télé de Major League Baseball vont être renégociés.
On est au courant.
Bien, c'est ça. Que, là, si Amazon arrive avec Apple et dit, monsieur Manfred, voici notre offre, c'est 7 milliards, on veut toute la patente au complet, ça va être plate. Là. Parce que c'est pour ça qu'il y a des groupes ici au Québec, au Canada, doivent se réveiller et dire, là, la game va changer, le sport professionnel, c'est une bonne business. Et d'embarquer là, d'aller voir Major League Baseball maintenant, dire, écoutez, là, on peut-tu embarquer? Qu'est-ce que ça prend? Le Sportsnet va être protégé, puis probablement les Yankees avec le Yes Network. Mais la game des médias est en train de changer. Ouais, ouais. Puis vous savez, vous êtes là-dedans. Là,
ouais, absolument. Je reviens avec ce qu'Alain a mentionné tantôt, là, puis c'est un point qui est très important, là, qu'on a glissé peut-être un peu trop rapidement. Mais tu sais, les gens regardent le salaire de Otani, puis regardent le salaire de Vladimir Guerrero, puis on dit comment on peut se permettre ça. Juste rappeler aux gens que c'est 5 à 6 % des joueurs du baseball majeur qui font 25 millions et plus. Donc, la majorité des joueurs du baseball majeur, tu sais, ils sont pas...
1,3 million. C'est 1,3, j'ai trouvé 1,3 million.
Ils font pas pitié, mais c'est parce que ce que j'allais dire, c'est que dans la convention collective, on sait que les représentants des joueurs, c'est des gars comme Max Scherzer. J'ai rien contre Max, mais Max, on sait qu'il a fait son argent, là. Mais il faudrait effectivement penser au gars que, tu sais, ça y prend pratiquement 6 ans dans le baseball majeur pour finalement aller chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, il faudrait peut-être rétablir aussi que les joueurs qui font 1,3 ou évidemment, tu sais, qu'on pense à eux un petit peu plus. Alors que souvent, dans les conventions, on pense beaucoup aux multimillionnaires qui sont les 5 à 6 % des joueurs, là.
Et des fois, les plusieurs années qu'ils ont passé au baseball mineur avec des salaires de crève fin aussi, là.
Ouais.
Pour se rendre au baseball majeur.
Exact, exact. Messieurs, là, ça fait 13 mois que vous travaillez sur le dossier. Vous avez dit, vous avez rencontré des gens d'un peu partout, des milliardaires, des banquiers, des gens qui sont près du baseball majeur. On est rendu où? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la suite pour Jean et Michel dans votre groupe? On focus sur quoi? Est-ce qu'il y a... Il y a des choses tangibles. C'est quoi la suite?
Oui. Écoute, Marc, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a des ups and downs. Là. Quand tu fais un projet, il y a des journées, là, j'appelle Jean, puis là, on parle avec un exécutif de baseball, un ancien general manager. Puis là, on est tout excités. On a parlé avec un tel, puis là, on est comme des petits gars dans un magasin de bonbons parce qu'on a parlé avec un VP, un ancien general manager qui a gagné la Série mondiale. Bon, à tous les semaines, on lance des lignes. Là, c'est sûr que il faut continuer. Il faut continuer, mais je pense qu'il faut aussi rebâtir le marché de Montréal. Là, le stade olympique va être prêt en 2028. Moi, le stade olympique, ce n'est pas mon stade préféré, mais sauf qu'avec un nouveau toit, avec plus de luminosité, et si M. Dumontier et son équipe sont capables de configurer quelque chose de baseball qui serait intéressant, je pense qu'on a une opportunité incroyable de rebâtir le marché. Okay? Comment qu'on rebâtit le marché? Bien, les matchs pré-saison des Blue Jays, peut-être des matchs des Marlins de saison régulière, parce qu'on s'est fait dire qu'ils pourraient peut-être jouer 3-4 matchs par année ou pendant 5 ans à l'extérieur. Peut-être un festival de baseball au mois de juin. Créer un festival de baseball qui prendrait sa place avec la Formule 1, le festival de jazz et le tennis. Créer un festival de baseball où on amènerait des équipes des ligues majeures. Le Banana Baseball, on leur a parlé. On a parlé avec le fondateur de Banana Baseball, là, qui est un succès incroyable aux États-Unis. Bon, il nous a fait comprendre qu'il n'avait pas besoin de nous autres, mais il a dit, regarde, si tu veux que Jean fasse les commentaires en français, parce que lui, il est complètement indépendant, là. Il vend ses propres billets, lui, il loue le stade, il vient jouer, on dit, parfait, regarde, Jean va être ton commentateur en français, puis la vie est belle. Mais c'est de ramener du baseball. Là, on n'a pas de baseball à Montréal, là. Ça n'a pas de maudit bon sens. Là. T'as une génération de kids là, qui ont des casquettes des Blue Jays dans le métro, puis n'ont jamais vu un match de baseball à Montréal. C'est inacceptable. Moi, dans mon livre à moi, il faut changer ça. Donc, on va continuer, on va parler avec le stade, on va parler avec différentes personnes. On regarde aussi peut-être le World Baseball Classic, Major League Baseball. Bon, je pense qu'ils ont reconnu le fait qu'à un moment donné, il faut qu'ils sortent des marchés anglo-saxons. Là. Montréal est une ville qui est énormément appréciée dans le baseball majeur. Là. Moi, j'ai rencontré Dusty Baker l'année passée au camp d'entraînement des Washington Nationals. Là. Il m'a parlé de Montréal pendant 15 minutes, le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Il dit, moi, je comprends pas, vous n'avez pas d'équipe, etc., etc. C'était la ville préférée. Il y a des exécutifs de Major League Baseball qui nous ont dit, Montréal, c'est une de nos villes préférées. Quand on allait là, tout le monde aime Montréal. Mais là, à un moment donné, il faut amener des événements. Fait que moi, puis Jean, on va peut-être refocuser un peu. On va continuer à lancer des lignes avec des high net worth individuals et des compagnies, mais on va aller chercher peut-être des événements, aider le stade olympique avec nos contacts, puis voir comment on peut s'organiser, puis ramener des événements, puis de rebâtir le marché. Yep. À un moment donné, Major League Baseball m'a dit, écoute, là, ces gars-là sont capables de mettre 35 000 personnes dans les matchs pré-saison au stade, il y a peut-être quelque chose. Là.
Et pourquoi pas avoir, aussi. Michel, pourquoi pas avoir un groupe de la World Baseball Classic en 2029? On sera à Miami en mars prochain, et puis comme observateur, et puis on va aller chercher beaucoup de données. Ça fait partie un petit peu de la suite pour les prochains mois, Marc.
Oui, c'est ça qu'on va miser là-dessus. On va continuer à lancer des lignes. C'est sûr que c'est pas facile de rejoindre des milliardaires puis leur entourage. Là, on a mis beaucoup d'efforts là-dedans. Moi, je trouve qu'on était quand même bons. Là, pour deux gars d'antique avec un laptop et un téléphone, on s'est quand même bien débrouillé. Mais là, il faut penser autrement, il faut rebâtir le marché, il faut aller chercher des événements. Puis à travers ça, s'il y a des gens au Québec qui lèvent la main et disent hey, les gars, on trouve ça intéressant, ben let's go.
Est-ce que vous pensez, on va terminer là-dessus, mais est-ce que vous pensez que là, je sais qu'il y a des gens qui travaillent fort aussi pour avoir des équipes de la Ligue Frontier, par exemple, dans la grande région de Montréal. Mm-hmm. Tu sais, est-ce que le succès des capitales, le succès de cette ligue-là ne fait pas de doute? Est-ce que vous pensez que, tu sais, si on se dote de stades, je sais pas, 3500, 4000 à Rive-Nord, Rive-Sud, tu sais, pour que le baseball fasse parler de lui aussi à plus petite échelle pour préparer un petit peu la table éventuelle?
Le baseball, là, sous toutes ses formes, c'est important, ça fait partie de notre histoire. C'est 129 ans d'histoire au Québec, le baseball majeur, le baseball professionnel. Les Royaux, les Expos, puis même avant ça, les gens, il y avait des compagnies, il y avait des équipes. Ça fait partie de notre histoire. Là. Puis la Ligue Frontier, c'est un très beau succès. Le Rocket de Laval fonctionne, le Canadien de Montréal fonctionne. Je vois pas pourquoi la Ligue junior majeure fonctionne. Je vois pas pourquoi on se priverait de bon baseball au Québec. La Ligue Frontier, ben, c'est un beau succès. Puis moi, j'ai des gens qui sont là-dedans. On n'est pas là pour essayer de leur tirer le tapis sous les pieds. Là, c'est pas ça le but. Là. Nous autres, on est focusé sur Major League Baseball. On regarde ça, on parle avec des gens. Mais un n'empêche pas l'autre.
Mais Michel, juste te dire, les franchises qui fonctionnent le mieux dans la Frontier, c'est des équipes qui sont à peine 50 km d'une équipe du baseball majeur. Un va avec l'autre. Là. C'est pas un est contre l'autre, c'est loin de ça. Au contraire, c'est que je pense que la région de Québec, tantôt Jean parlait du travail de la fédération puis de l'augmentation. Et juste pour donner des chiffres très, très, très rapides, des belles années des expos, il y avait 46 000 jeunes qui jouaient au baseball au Québec. Et les expos sont partis en 2004. Été 2005-2006, on est tombé au bas mot, 15 000.
Ouais.
Et là, on est au-dessus de 40, on approche de 45, dont 5 à 6 000 filles. Et donc, on retourne dans les belles années. Le problème, c'est qu'il manque d'infrastructures. Alors, l'infrastructure avait été changée pour le soccer à l'époque. C'était correct parce que le soccer avait pris de la place. Mais là, chaque municipalité ou région, peu importe, ou ville, on est pris là à bloquer les inscriptions à une centaine de personnes parce qu'il n'y a pas de terrain.
Tu as absolument raison, Marc. Je l'ai dit souvent là, dans ma bataille pour avoir un stade communautaire à Montréal. Hein. On a perdu le stade des Royaux des années 60 pour une polyvalente. Ouais. On a perdu le parc Jarry parce que personne ne voulait en prendre la gestion en tant que telle. On l'a perdu au tennis. Mais au Québec, hein, si on parle au stade Léo Asselin à Actonville, les deux dernières rangées, les bancs de bois, c'est des bancs du stade de Lormier. Au stade Napoléon Fontaine de Granby, c'est les estrades en métal du parc Jarry. Au stade à Thetford Mines, c'est les estrades de l'autostade, l'ancien stade des Alouettes. Ouais, on a des petits bouts de Montréal un peu partout, mais il n'y a aucune volonté politique dans les 10, 20 dernières années depuis le départ des expos à construire un stade digne de ce nom à Montréal. Je le répète encore, c'est mon humble opinion, ça n'implique pas personne d'autre que moi, mais je pense qu'à Blue Bonnet, on aurait une place pour faire un stade de baseball, un aréna multiglace, un centre sportif multisport avec 3000 logements sociaux, un poste de police, une école et une bibliothèque. avec 43 hectares à Blue Bonnet, ça serait, puis ça fait 10 ans qu'il ne se fait rien là. Alors,
t'aurais pas voulu te présenter comme maire, Jean?
Non.
Nous, notre job, Marc, c'est de ramener les expos.
C'est ça, exactement.
Puis, des fois, j'y passe à la politique, je dis non, Michel, les expos.
Ben alors, je comprends.
Ça va être notre Marc, c'est pour ça qu'on fait ça. Puis, tu sais, des fois, je vois des jeunes dans le métro avec des casquettes, puis je leur dis, j'espère un jour, tu vas aller à Cooperstown, tu vas aller voir c'est quoi un musée de baseball, puis tu vas triper comme moi le restant de ta vie sur le baseball, parce que c'est un beau sport, puis on faut ramener ça au Québec. Là. Ça,
Alain, un petit mot de la fin?
Ben écoute, regarde, on est bien placé. On aimerait ça avoir une équipe. Évidemment, ça va prendre quelqu'un qui a des poches profondes. Oui. Et ça, c'est la première étape. Je pense que c'est...
Il y en a qui ont des poches profondes au Québec, Alain.
Ben, écoute...
Voilà ce message. C'est
l'intérêt. Le baseball, puis je pense le sport en général, oui, pour les entreprises qui veulent s'impliquer, c'est payant. Pourquoi? Parce que dans le monde du divertissement visuel, aujourd'hui, c'est la dernière chose que les gens veulent voir en direct. C'est de là l'attrait du sport. Tu sais, je fais toujours la comparaison avec la série Friends, qui a été très populaire. Moi, je me rappelle avoir une copine de jeudi soir, là. Oui. Quand Friends passait, là, on ne pouvait pas rien prévoir. Là. C'était fixé. Puis après Friends, il n'y a pas de problème. Là, aujourd'hui, il y aurait une télésérie comme celle-là. C'est pas grave, on va la voir le lendemain. Là. Tu comprends? Donc,
mais quand elle est finie, elle est finie. Quand Friends est fini, là, il n'y en a plus. Il faut que tu tombes dans une autre série. Tandis que le baseball, là, tous les soirs,
ouais, ben, c'est que le fait que Friends, tu peux le regarder le lendemain. Il n'y a pas personne. Oui. Si tu t'en vas au baseball, tu manques le match, c'est presque impossible de ne pas savoir le score le lendemain matin quand tu vas te réveiller. Friends, tu peux le regarder le lendemain. Il n'y a personne qui va me dire si Chandler, là, bon, il a cassé avec sa blonde. Là. Donc... Tu comprends?
Je ne pensais pas qu'on s'allait dans cette direction-là dans la discussion. Non, là.
Ce que je veux dire, c'est tout simplement que le sport a une place privilégiée dans le divertissement aujourd'hui. C'est pour ça que les droits sont si élevés. Mais le baseball doit faire attention. On l'a mentionné tantôt, l'offre de divertissement s'est multipliée depuis la dernière grève de 94. Mais oui, effectivement, quelqu'un qui a les reins assez solides pour s'embarquer, parce que c'est ça qui est le défi, de s'embarquer dans l'aventure, une fois que c'est fait, devrait être correct.
En tout cas, messieurs, merci beaucoup. Moi, j'ai toujours gardé ce petit espoir-là de revoir du baseball à Montréal, même si parfois, comme Michel a dit tantôt, il y a des journées que tu te lèves, tu dis, ma foi, ça existera jamais, ça n'arrivera jamais. Mais merci de garder cette petite fenêtre ouverte juste par votre travail, vos contacts, vos connaissances. Tu sais, je pense que c'est important quand même, parce que je sais que le baseball majeur a entendu parler de vous par le biais de bien des contacts que vous avez fait. Fait que juste savoir que ça existe, ben ça garde cet espoir-là vivant. Jean-Laure, Michel Frison, je vous remercie beaucoup. Jean, tu veux dire un dernier mot de la fin?
Un dernier commentaire. Il y a un ami qui m'a déjà dit, avant chaque présence au bâton, puis c'est ça le message d'espoir, it's time to shine.
Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ben, merci beaucoup encore une fois, puis on va suivre le dossier de près, messieurs. Qui sait, on pourrait se reparler dans la prochaine année, si évidemment il y a d'autres développements. Mais merci de votre temps. Merci, Alain. Merci à Martin Villeneuve, notre réalisateur. Et encore une fois, j'espère que les gens ont apprécié. C'est un compte complet extra. On vous donne rendez-vous à un prochain compte complet régulier. Merci tout le monde.